Bonsoir. Merci d'abord de cette agréable et intimidante invitation. Merci beaucoup. Alors, ce que j'ai préparé n'est ni, je pense, très cohérent, ni très, en tout cas très formel. C'est un peu le jeu de cette séance, je crois. Peut-être c'est un peu long. Si c'est trop long, on coupera. On verra bien. Je suis parti, en fait, de l'énoncé du titre que Judith m'a transmis, qui était... Je le rappelle, penser à gauche avec ou sans Foucault. Et je voudrais commencer par explorer les différentes ententes possibles de cette question ou de cet énoncé-là. Peut-être en partant en un sens du plus anecdotique, c'est-à-dire de la dimension biographique du problème. Pour le dire nettement, Foucault était-il de gauche ? La question mérite d'être posée parce que, à parcourir les idées écrites, c'est-à-dire à parcourir le recueil de l'ensemble de ces interventions en dehors des bouquins, on s'aperçoit que alternent deux types d'énoncés à cet égard. D'un côté, toute une série d'énoncés, d'interventions, où Foucault très tranquillement, mais vraiment très tranquillement, très naturellement, témoigne d'une inscription, d'une appartenance, d'une familiarité avec la gauche, en laissant absolument indéterminée cette notion. Bon. Mais ça va de soi, en quelque sorte, que lui-même soit de gauche, qu'il soit inscrit dans un horizon de gauche, par exemple, dans cet horizon ouvert par mai 68. Il y avait dans une interview de 1980 de longs développements de Foucault sur le fait qu'il doit l'essentiel de son travail à mai 68. Première série d'énoncés. Deuxième série d'énoncés, vous avez aussi une autre multiplicité d'entretiens où, et jusqu'à très tard dans la biographie de Foucault, où Foucault s'amuse d'être étiqueté un peu partout. D'être étiqueté et critiqué tantôt comme un homme de droite et tantôt comme un homme de gauche. Il s'amuse du fait que ses contradicteurs le situent à peu près partout sur l'échiquier politique et que le situant partout, finalement, il n'est nulle part. Et il leur échappe. Je cite par exemple un extrait d'un texte de 1984, c'est-à-dire très tard, hein, première année, je crois avoir été localisé tour à tour et parfois simultanément sur la plupart des cases de l'échiquier politique, anarchiste, gauchiste, marxiste tapageur ou occulte, nihiliste, anti-marxiste explicite ou caché, technocrate au service du gaullisme, néolibéral, etc. Un professeur américain se plaignait qu'on invitât aux États-Unis un crypto-marxiste comme moi, et j'ai été dénoncé dans la presse des pays de l'Est comme un complice de la dissidence. Aucune de ces caractérisations n'est par elle-même importante. Leur ensemble, en revanche, fait sens. Et je dois reconnaître que cette signification ne me convient pas trop mal. Donc, on a toute une deuxième série d'énoncés dans laquelle Foucault s'affirme à travers une forme de désinscription ou de déprise à l'égard des catégories traditionnelles et des oppositions traditionnelles du champ politique. Bon. Que penser de cette ambiguïté-là ? Un premier sens, elle a un sens qu'on pourrait presque dire éthique. Je veux dire qu'il est un sens tout à fait normal et tout à fait sain de s'identifier parfois soi-même avec ses amis et de refuser de l'être par ses ennemis. Finalement, ce que Foucault rejette, c'est moins l'identification en général que cette forme d'assignation accusatrice qui lui est adressée de l'extérieur. Plus profondément, je crois, cette ambiguïté ou cette alternance renvoie chez Foucault à la présence de deux thèses, de deux postulats, qui sont toujours tenus ensemble, bien qu'ils puissent paraître contradictoires. Premier postulat, pour Foucault, les concepts qu'il produit, concepts archéologiques, les concepts de la généalogie, ne renvoient ultimement à aucune orientation déterminée. C'est-à-dire qu'on a des concepts qui ne sont inscrits dans aucune téléologie, aucune finalité ne les traverse. Au contraire, ils déconcertent, ils affolent toutes les orientations convenues, et ils sont libres pour tel ou tel usage. On peut en faire un peu ce que l'on veut. Okay. Premier postulat, une essentielle liberté des concepts qu'ils produisent vis-à-vis de leurs usages possibles. Mais deuxième postulat, tout aussi net que le premier, il va de soi pour Foucault que ses interlocuteurs, ceux à qui il s'adresse, c'est-à-dire ceux qui vont en fait faire usage de ces concepts disponibles pour un peu tout le monde, eh bien, ces interlocuteurs, ce sont les tenants d'une politique critique et d'une politique progressiste. On a simultanément, en permanence, les deux types d'affirmations. Autrement dit, si on approfondit un peu au-delà de l'anecdote biographique, avec Foucault, on a le cas d'une pensée d'un penseur qui dit, bon, ma pensée s'inscrit assez naturellement dans un courant, dans une filiation, dans une appartenance, concept très important chez le dernier Foucault, concept d'appartenance, de gauche. C'est mon dehors. Mais le meilleur service que je puisse rendre à ce dehors-là, c'est de ne pas le réfléchir à l'intérieur de la théorie que je produis, c'est de ne lui laisser aucune place, de l'assigner à aucune place dans cette théorie-là, c'est-à-dire de le laisser au bord de mes analyses historiques. Je m'inscris dans une tradition dont il est entendu qu'il ne sera pas question dans le corps même des analyses que je produis. Pour plus simplement, à la question pensée à gauche avec ou sans Foucault, une première réponse qu'on peut faire, c'est que on ne peut pas penser la gauche avec Foucault. Je veux dire que chez Foucault, le rôle de la théorie n'est pas d'être l'idéologie de sa pratique. N'est pas de définir ce qu'il en est du sens, de l'orientation, etc. de sa pratique. Le rapport de l'engagement à la théorie n'est pas de réflexion, comme si la théorie venait élucider la position du penseur, mais d'interruption. D'interruption réciproque. Une espèce de clignotement. Ça se voit très bien à la toute dernière page de Surveiller et punir, lorsque Foucault écrit, dans cette humanité centrale et centralisée, effet et instrument de relations de pouvoir complexes, etc., il faut entendre le grondement de la bataille. Point et une note. La note dit « J'interromps ici ce livre qui doit servir d'arrière-plan historique à diverses études sur le pouvoir de normalisation et la formation d'un savoir dans la société moderne. » C'est-à-dire qu'au moment où arrive le grondement de la bataille, le livre s'interrompt. C'est entendu que de la bataille elle-même, il ne sera pas question dans le livre, même si et pour que le livre soit une pièce, un outil, un instrument, une arme à l'intérieur de cette bataille-là. Ça, c'est le premier point. À partir de là, il me semble que, à partir de cette particularité biographique, ou presque stylistique, de la pensée de Foucault, il me semble qu'on peut accéder au fond du problème, au fond du problème actuel, le nôtre. C'est-à-dire, à la question de savoir ce qu'on peut garder, ce qu'il faut garder aujourd'hui de Foucault. Pour aller vite, est-ce que ce qu'il faut garder de Foucault, c'est l'ensemble des concepts qu'il a produits, ou une partie des concepts qu'il a produits, ou, autre position, c'est celle que j'essaierai de défendre, est-ce qu'il faut garder de Foucault non seulement ses concepts, mais sa posture, sa pratique, ou ce qu'il appelait dans la dernière partie de son œuvre, son exercice, l'exercice spécifique auquel il se livre en produisant ses concepts. Il me semble en effet qu'il y a, lire Foucault aujourd'hui, c'est, on peut l'aborder de deux manières. On peut dire d'abord que Foucault c'est un formidable réservoir à concepts, à questions, à domaines, à problèmes. Bon. Tellement formidable d'ailleurs qu'il est allègrement pillé et qu'un certain nombre de ses questions sont passées dans dans l'ensemble, dans le système des lieux communs de la gauche. Je ne ferai pas l'effet de liste qui est toujours accablant, bon, de la discipline au gouvernement, de l'hôpital à la prison, à la sexualité, du dispositif, etc. Bon. Tout ça se trouve chez Foucault, et tout ça, on peut bien le prendre chez Foucault. Pour reprendre la métaphore qu'il affectionnait, la métaphore de la boîte à outils, cette position-là consiste à dire, je laisse la boîte, je prends les outils. Je me tire avec les outils, je laisse la boîte ne m'intéresse pas, la manière dont Foucault faisait de la philosophie, c'est pas mon problème, ce qui m'intéresse c'est les questions qu'il a soulevées, les concepts qu'il a produits, etc. Une autre position pourrait consister à dire, moi ce qui m'intéresse, c'est la boîte. Je veux dire que cette deuxième position, cette deuxième manière de penser à gauche avec Foucault, consisterait à reconduire dans la pratique intellectuelle contemporaine le type de procédure très particulier que Foucault avait mis en place. Et c'est là, je crois, le fond du problème, et c'est peut-être de ça qu'il faut qu'on discute ce soir. Qu'est-ce que c'est que ce type de procédure? Qu'est-ce qu'il fait, Foucault, au fond? Non pas qu'est-ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'on peut résumer, on peut essayer de résumer cette procédure ou cet exercice d'un mot plutôt paradoxal. Hein. Foucault pratique un scepticisme de gauche. C'est-à-dire une sorte d'animal, d'objet pensant non identifié dans l'histoire, dans la tradition de la pensée. Un scepticisme. Un scepticisme, c'est Pierre Macheret qui, une fois, m'avait fait remarquer comme ça, de manière très lapidaire, que Foucault était peut-être le grand sceptique de notre temps, il avait saisi. Je crois que c'est profondément juste, au sens où, premièrement, Foucault pratique systématiquement cet exercice sceptique très particulier qui est le renvoi dos à dos. Foucault ne cesse de renvoyer dos à dos les défenseurs de la prison et leurs critiques, les freudiens et les défenseurs de la psychologie positive, etc., etc. Il pratique un dédoublement très systématique de son discours, y compris dans la tessiture même de ses textes. Je n'y arrête pas. Du même coup, Foucault donne à la théorie, au fond, une tâche négative, puisque le rôle principal de la théorie, c'est de montrer qu'on ne peut pas déterminer en vérité le sens de nos pratiques. Et du même coup, comme les sceptiques antiques, de même que les sceptiques antiques pratiquaient l'ignorance pour laisser la vie se déployer au-delà du savoir, eh bien, Foucault pratique l'autodestruction de la théorie pour laisser les engagements, les luttes, les mouvements se déployer à partir des domaines qu'il examine. En gros, faire taire les penseurs de la prison, faire taire les philosophes de la prison, faire taire une fois pour toutes ceux qui voudraient que la prison obéisse à des principes fondamentaux pour laisser se déployer les luttes de prisonniers. On a affaire à un dispositif de sceptique. Au sens où grec, où la scepticisme chez les Grecs, c'est le suspens. C'est suspendre. Suspense de jugement. Et ce que fait Foucault fondamentalement, c'est qu'il suspend toutes les formes de justification possibles d'une pratique comme l'incarcération pour laisser se déployer les critiques pratiques de ce domaine-là. Alors évidemment, c'est un scepticisme très étrange. C'est le scepticisme de gauche. C'est très étrange. C'est très étrange pour deux raisons. Première raison, parce que d'habitude, le sceptique professe le calme retrait du monde. Oh, le sceptique, une fois reconnu que le savoir ne mène à rien et qu'on ne peut rien savoir, on rentre chez soi, il n'y a pas de problème. Foucault fait exactement l'inverse, puisque ce qui reste quand on a retiré toute certitude, chez Foucault, c'est l'engagement. C'est-à-dire que l'engagement est ce qui se déploie au-delà de toute certitude possible. C'est quelque chose que Jacques Rancière dit très bien dans un très beau texte consacré à Foucault, dans son texte brésilien qu'il a repris dans le recueil qui s'appelle Chronique des temps consensuels. Je cite : le déplacement philosophique opéré par Foucault impliquait justement le dérèglement des rapports entre savoir positif, conscience philosophique et action. En s'enfonçant dans l'examen des fonctionnements réels par lesquels la pensée effective agit sur les corps, la philosophie abdique sa position centrale. Et un peu plus loin, cela ne veut pas dire que la politique se perde dans la multiplicité des rapports de pouvoir disséminés partout. Cela veut dire qu'elle est toujours un sceau qu'aucun savoir ne justifie et dont aucun savoir ne dispense. De tout savoir à toute intervention, le passage suppose un relais singulier, le sentiment d'un intolérable. Tandis que dit Rancière, c'est que la singularité de la pensée de Foucault, c'est cette communication négative entre le moment de penser et le moment d'agir. Le moment d'agir étant à la fois lancé et non justifié par le moment de penser. Première particularité, c'est très étrange, c'est ça. Deuxième étrange particularité de ce scepticisme, c'est la manière dont il va conjuguer l'exercice solitaire et l'appel au peuple. Pour aller. Dans un beau livre sur le scepticisme qui s'appelle Le travail du scepticisme, Frédéric Brahe remarquait qu'il y avait finalement deux genres de sceptiques dans l'histoire de la philosophie. Il y avait les sceptiques antiques de l'Antiquité,